Le peuple de la mer. Troisième partie, chapitre 10. Les vieux attendaient depuis 8 jours dans leur maisonnette aux peintures claires et guettaient le facteur du coin des fenêtres. La Cécile avait porté chez eux les rideaux de leur lit, comme elle disait du lit nuptial, sitôt leur achèvement. En cretonne jaune, semée de fleurs rouges, ils fleuraient la cotonnade. Elle espérait que le brigadier les mettrait en place pour juger de l'effet, mais il n'y prit pas plus garde que sa femme, et ils les abandonnèrent pliés sur une chaise. Elle n'osa plus demander de nouvelles, parce qu'elle sentait combien il leur était douloureux de répondre qu'ils n'en avaient pas. Elle n'osa plus entrer dans la chambre de Petit Pierre, qui sera leur chambre, et où elle aurait aimé déjà faire le ménage, parce qu'au seul bruit de la porte, la figure de la mère se crispait. La bonne femme ne tricotait plus, ne bougeait plus, restait assise les mains sur le ventre, dans l'attente. À peine si elle faisait de la cuisine pour son Bernard, la soupe aux légumes, et le pot-au-feu. Elle regardait indéfiniment la route blanche au travers des vitres et connaissait si bien l'emplacement des cailloux qu'elle s'apercevait du moindre manquant. La sortie bruyante de l'usine lui rappelait l'heure, mais elle l'agaçait à cause de la joie des filles. Bernard feignait de s'occuper beaucoup du jardin et annonçait chaque jour qu'il allait faire une tombe pour ses laitues ou tresser des oignons. Seulement, si sa bonne femme venait le rejoindre, elle le trouvait assis sur la brouette, les bras croisés, ou se promenant parmi les carrés, les yeux à terre. Il descendait encore chez Zacharie, consultait l'écho de Paimbœuf, qui suivait le sauvetage du pluviose. Il entrait par derrière, par l'atelier, et demeurait à la cuisine, pour ne pas se montrer dans l'auberge, surtout aux amis. Le pluviose était maintenant à sec dans le port, et l'on commençait l'extraction des cadavres pourris dans ses flancs crevés. La plupart étaient méconnaissables. On les portait à terre et on les alignait en bière dans un hangar transformé en chapelle ardente où sanglotaient tout le jour des épouses et des mères. Et le journal, après ces brèves indications, se répandait en louanges sur la conduite du préfet maritime, de l'amiral, des médecins, qui tous faisaient leur devoir avec un sublime dévouement. Comme si le devoir accompli et l'exemple dû par les chefs étaient une rare curiosité. Puis ronflaient des tirades sur la grandeur du sacrifice, la beauté de la mort pour la patrie. En prologue à l'apothéose des funérailles nationales, avec les drapeaux, les baïonnettes, les panaches, les uniformes, au milieu de tout un peuple dont on sentait se lever les suffrages comme des palmes. Bernard lisait cela jusqu'au bout, le relisait souvent, en s'exaltant à mesure. L'horreur de la catastrophe s'effaçait derrière la gloire qui remuait sa vieille âme de soldat et de français, et l'imagination dupait son cœur au point qu'il en oubliait la mort de son gars. Mais au retour chez lui, devant sa bonne femme, tassée d'inquiétude, qui ne sait pas, mais qui se doute, il retombait de son haut à la simple douleur des mères et réentendait le cri tragique de la nature par-dessus la clameur de la patrie reconnaissante. Toujours pas de nouvelles. Petit Pierre n'avait même pas signalé son arrivée, ni à eux, ni à Cécile. Ils attendaient. L'automne hâtif chargeait la nue, rongeait les jours qui s'éteignaient maintenant en des crépuscules rouges au lieu de se prolonger en clair-obscur comme à l'été, longtemps après la chute du soleil. La mer et le vent s'alourdissaient et les goélands tournoyaient sur le marais en criant comme des enfants. Les barques poursuivaient les dernières sardines, pêchaient le maquereau, le thon, malgré les brouillards d'arrière-saison qui réveille la cloche lugubre, le soir, au bout de la jetée. Les rhumatismes remontaient aux articulations de Clémotte, dans les temps humides, comme la salure sur les vareuses. Ourtin se cassait, mais sans perdre la mémoire de ses aventures, qu'il contait au jeune gars en buvant la goutte. L'éveillé allongeait les stations au cabaret. On parlait du pluviose, on lisait la feuille. Zacharie donnait des nouvelles du brigadier. « Son gars qu'a seulement point écrit. »«
Lui serait-il point arrivé malheur aussi ?»
dit Perchet.
« On sait point, » insinua Cucassé. « Mais qui dit qu'il aurait point trouvé à s'embarquer ?»
Tout le monde protesta.
« La veille de son mariage, il était trop amoureux, et que la Cécile le tenait bien. »
Cucassé hocha la tête en grimaçant. Perchet resta pensif. Puis on passa aux plaintes sur la pêche. La mère Bernard s'est mise à prier Dieu, parce qu'il faut bien quelque chose à quoi s'accrocher quand tout vous manque à la fois sur terre. Elle a dit à son Bernard, sans pleurs, avec accablement, « Je pense ben qu'on reverra plus nos gars. » Il a essayé de rire, mais ils ont compris ensemble qu'il ne fallait plus se tromper, mais s'unir. Et le lendemain est arrivé un paquet, avec une lettre, qu'ils ont laissé Louchon déposer sur la table, sans y toucher d'abord, parce qu'ils sentent en eux la certitude du malheur, et non plus de hâte.
« Je te l'avais bien dit, »
fait la bonne femme. Bernard ouvre le paquet, sort un petit sac de marin avec ses rabans et ses chavillots de buis. Dedans, il y a deux mouchoirs à carreaux, un tricot, des lettres gondolées et brouillées par l'eau, une pipe et la photographie d'une fille en cheveux qu'ils ne connaissent pas. Sur le sac, une bouée de sauvetage est grossièrement peinte avec l'inscription « Honneur, patrie ». C'est tout. Les vieux étalent ces objets sur la table, d'une main tremblante. La mère a reconnu le dernier maillot qu'elle a tricoté pour Florent. Le père lui avait acheté la pipe à la foire de Saint-Gilles. Ils ne disent rien. Mais quand Bernard veut lire la lettre de Petit Pierre, ses yeux s'obscurcissent tellement qu'il doit y renoncer.
« Je peux pas, » soupire-t-il.
Et la vieille essaie, à son tour, frotte ses lunettes, ses paupières, froisse le papier où deux gouttes tombent et font de petites bosses, puis, en désespoir, le remet sur la table. À quoi bon, puisqu'ils savent? C'est la Cécile qui lit la lettre, le soir à la chandelle, et pousse un grand cri.
« Ah ! Il est parti ! Parti ! Parti !»
Les vieux sont presque agacés par cette explosion douloureuse dans leur muet accablement. La fille sanglote et perdue en jetant au travers de ses hoquets.
« Il ne reviendra plus, il s'est embarqué. Petit Pierre, je le reverrai plus, il est parti sur un navire. Oh là là, plus jamais !»
La mère Bernard pousse un gros soupir et son homme baisse la tête. Ce dernier coup ne les étourdit pas davantage. La Cécile, à genoux, le front dans le tablier de la bonne femme, continue à gémir par intervalles dans le silence où l'on entend le vent d'automne secouer la porte au passage. La chandelle se consume en crépitant, déplace des reflets sur la pipe, le maillot, la photographie et le sac, où, par moments, ces deux mots brillent « honneur ». Patrie. Très tard, la Cécile s'en va comme une enfant perdue dans la nuit. Le bruit des sabots sur la route réveille le lendemain les vieux assoupis sur leurs chaises. Le temps a une clarté d'aube estivale. Les pêcheurs descendent au port, des coqs chantent. La mère Bernard prend le portrait de cette femme en cheveux aux mauvaises allures qu'ils ne connaissent pas et l'installe sur la cheminée près des gars, parce que c'est un peu du cœur de Florent, sans doute. Les filles des usines passent dehors en riant et jacassant. les cloches sonnent. Dans le port, les vareuses bleues embarquent à plein canot. Les sloops appareillent aux cris des poulies, doublent la jetée, un à un, et s'éloignent sur l'océan calme, avec de la lumière dans leur voilure multicolore. Clémotte et Ourtin, appuyés sur des cannes, descendent voir la mer. Mai 1910, octobre 1911.